Chapitre 125. Ce qui s'était passé en réalité à l'auberge du Beaupan. D'abord, donnons à nos lecteurs quelques détails sur l'auberge du Beaupan. Puis nous passerons au signalement des voyageurs qui l'habitaient. L'auberge du Beaupan, comme toute auberge, devait son nom à son enseigne. Cette enseigne représentait un pan qui faisait la roue. Seulement, à l'instar de quelques peintres qui ont donné la figure d'un joli garçon au serpent qui tente Ève, le peintre de l'enseigne avait donné au Beaupan une figure de femme. Cette auberge, épigramme vivante contre cette moitié du genre humain qui fait le charme de la vie, dit M. Legouvet, s'élevait à Fontainebleau, dans la première rue latérale de gauche, laquelle coupait, en venant de Paris, cette grande artère qui forme à elle seule la ville tout entière de Fontainebleau. La rue latérale s'appelait alors la rue de Lyon, sans doute parce que, géographiquement, elle s'avançait dans la direction de la seconde capitale du royaume. Cette rue se composait de deux maisons habitées par des bourgeois, maisons séparées l'une de l'autre par deux grands jardins bordés de haies. En apparence, il semblait y avoir cependant trois maisons dans la rue. Expliquons comment, malgré ce semblant, il n'y en avait que deux. L'auberge du Beaupan avait sa façade principale sur la grande rue. Mais, en retour, sur la rue de Lyon, deux corps de bâtiments, divisés par des cours, renfermaient de grands logements propres à recevoir tout voyageur, soit à pied, soit à cheval, soit même en carrosse, et à fournir non seulement logis et tables, mais encore promenades et solitude aux plus riches courtisans, lorsque, après un échec à la cour, ils désiraient se renfermer avec eux-mêmes pour dévorer l'affront ou méditer la vengeance. Des fenêtres de ce corps de bâtiment, en retour, les voyageurs apercevaient la rue d'abord, avec son herbe croissant entre les pavés, qu'elle disjoignait peu à peu. Ensuite, les belles haies de sureau et d'aubépine qui enfermaient, comme entre deux bras verts et fleuris, ces maisons bourgeoises dont nous avons parlé. Puis, dans les intervalles de ces maisons, formant fond du tableau et se dessinant comme un horizon infranchissable, une ligne de bois touffu, plantureux, première sentinelle de la vaste forêt qui se déroule en avant de Fontainebleau. On pouvait donc, pour peu qu'on eût un appartement faisant angle par la grande rue de Paris, participer à la vue et au bruit des passants et des fêtes, et par la rue de Lyon, à la vue et au calme de la campagne. Sans compter qu'en cas d'urgence, au moment où l'on frappait à la grande porte de la rue de Paris, on pouvait s'esquiver par la petite porte de la rue de Lyon et, longeant les jardins des maisons bourgeoises, gagner les premiers taillis de la forêt. Malicorne, qui, le premier, on se le rappelle, nous a parlé de cette auberge du Beaupan pour en déplorer son expulsion, Malicorne, préoccupé de ses propres affaires, était bien loin d'avoir dit à Montalet tout ce qu'il y avait à dire sur cette curieuse auberge. Nous allons essayer de remplir cette fâcheuse lacune laissée par Malicorne. Malicorne avait oublié de dire, par exemple, de quelle façon il était entré dans l'auberge du Beaupan. En outre, à part le franciscain dont il avait dit un mot, il n'avait donné aucun renseignement sur les voyageurs qui habitaient cette auberge. La façon dont ils étaient entrés, la façon dont ils vivaient, la difficulté qu'il y avait pour toute autre personne que les voyageurs privilégiés d'entrer dans l'hôtel sans mot d'ordre et d'y séjourner sans certaines précautions préparatoires, aurait cependant dû frapper, et avait même, nous n'oserions en répondre, frappé certainement Malicorne. Mais, comme nous l'avons dit, Malicorne avait des préoccupations personnelles qui l'empêchaient de remarquer bien des choses. En effet, tous les appartements de l'hôtel du Beaupan étaient occupés et retenus par des étrangers sédentaires et d'un commerce fort calme, porteur de visages prévenants, dont aucun n'était connu de Malicorne. Tous ces voyageurs étaient arrivés à l'hôtel depuis qu'il y était arrivé lui-même. Chacun y était entré avec une espèce de mot d'ordre qui avait d'abord préoccupé Malicorne, mais il s'était informé indirectement et il avait su que l'hôte donnait pour raison de cette espèce de surveillance que la ville, pleine comme elle l'était de riches seigneurs, devait l'être aussi d'adroits et d'ardents filous. Il allait donc de la réputation d'une maison honnête comme celle du Beaupan de ne pas laisser voler les voyageurs. Aussi Malicorne se demandait-il parfois, lorsqu'il rentrait en lui-même et sondait sa position à l'hôtel du Beaupan, comment on l'avait laissé entrer dans cette hôtellerie, tandis que, depuis qu'il y était entré, il avait vu refuser la porte à tant d'autres. Il se demandait surtout comment Manicamp, qui, selon lui, devait être un seigneur en vénération à tout le monde, ayant voulu faire manger son cheval au Beaupan dès son arrivée, cheval et cavalier avaient été éconduits avec un « nesquiovos » des plus intraitables. C'était donc pour Malicorne un problème que, du reste, occupé comme il l'était d'intrigues amoureuses et ambitieuses, il ne s'était point appliqué à approfondir. L'eût-il voulu que, malgré l'intelligence que nous lui avons accordée, nous n'oserions dire qu'il eût réussi. Quelques mots prouveront au lecteur qu'il n'eût pas fallu moins qu'Édipe en personne pour résoudre une pareille énigme. Depuis 8 jours étaient entrés dans cette hôtellerie 7 voyageurs, tous arrivés le lendemain du bienheureux jour où Malicorne avait jeté son dévolu sur le Beaupan. Ces 7 personnages, venus avec un train raisonnable, étaient d'abord un brigadier des armées allemandes, son secrétaire, son médecin, 3 laquais, 7 chevaux. Ce brigadier se nommait le comte de Wospur. Un cardinal espagnol, avec 2 neveux, 2 secrétaires, 1 officier de sa maison et 12 chevaux. Ce cardinal se nommait Monseigneur Herrebia. Un riche négociant de Brême, avec son laquais et 2 chevaux. Ce négociant se nommait Meiner Bonstedt. Un sénateur vénitien, avec sa femme et sa fille, toutes 2 d'une parfaite beauté. Ce sénateur se nommait il signor Marini. Un laird d'Écosse avec 7 montagnards de son clan, tous à pied. Le laird se nommait Mac Cumnor. Un autrichien de Vienne, sans titre ni blason, venu en carrosse. Il avait beaucoup du prêtre, un peu du soldat. On l'appelait le conseiller. Enfin, une dame flamande avec un laquais, une femme de chambre et une demoiselle de compagnie. Grand train, grande mine, grands chevaux. On l'appelait la dame flamande. Tous ces voyageurs étaient arrivés le même jour, comme nous avons dit, et cependant leur arrivée n'avait causé aucun embarras dans l'auberge, aucun encombrement dans la rue, leur logement ayant été marqué d'avance sur la demande de leur courrier ou de leur secrétaire, arrivé la veille ou le matin même. Malicorne, arrivé 1 jour avant eux et voyageant sur un maigre cheval chargé d'une mince valise, s'était annoncé à l'hôtel du Beaupan comme l'ami d'un seigneur curieux de voir les fêtes et qui, lui, à son tour, devait arriver incessamment. L'hôte, à ces paroles, avait souri comme s'il connaissait beaucoup, soit Malicorne, soit le seigneur son ami, et il lui avait dit « Choisissez, monsieur, tel appartement qui vous conviendra, puisque vous arrivez le premier. » Et cela avec cette obséquiosité significative chez les aubergistes, et qui veut dire « Soyez tranquille, monsieur, on sait à qui l'on a affaire, et l'on vous traitera en conséquence. » Ces mots et le geste qui les accompagnait avaient paru bienveillants mais peu clairs à Malicorne. Or, comme il ne voulait pas faire une grosse dépense, et que, demandant une petite chambre, il eût sans doute été refusé à cause de son peu d'importance même, il se hâta de ramasser au bon les paroles de l'aubergiste et de le duper avec sa propre finesse. Aussi, souriant un homme pour lequel on ne fait qu'absolument ce que l'on doit faire, « Mon cher hôte, dit-il, je prendrai l'appartement le meilleur et le plus gai. »« Avec écurie ?»« Avec écurie. » « Pour quel jour ?»« Pour tout de suite, si c'est possible. »« À merveille. » Seulement, se hâta d'ajouter Malicorne, « je n'occuperai pas incontinent le grand appartement. »« Bon, » fit l'hôte avec un air d'intelligence. Certaines raisons, que vous comprendrez plus tard, me forcent de ne mettre à mon compte que cette petite chambre. « Oui, 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 » fit l'hôte. « Mon ami, quand il viendra, prendra le grand appartement et, naturellement, comme ce grand appartement sera le sien, il réglera directement. » « Très bien, » fit l'hôte, « très bien. C'était convenu ainsi. »« C'était convenu ainsi ?»« Mot pour mot. »« C'est extraordinaire, » murmura Malicorne. « Ainsi, vous comprenez ?»« Oui. » « C'est tout ce qu'il faut. Maintenant que vous comprenez, car vous comprenez bien, n'est-ce pas ?»« Parfaitement. Eh bien, vous allez me conduire à ma chambre. » L'hôte du Beaupan marcha devant Malicorne, son bonnet à la main. Malicorne s'installa dans sa chambre et y demeura tout surpris de voir l'hôte, à chaque ascension ou à chaque descente, lui faire de ses petits clignements d'yeux qui indique la meilleure intelligence entre deux correspondants. « Il y a quelque méprise là-dessous, » se disait Malicorne. « Mais en attendant qu'elle s'éclaircisse, j'en profite, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. » Et de sa chambre, il s'élançait comme un chien de chasse à la piste des nouvelles et des curiosités de la cour, se faisant rôtir ici et noyer là, comme il avait dit à Mademoiselle de Montalet. Le lendemain de son installation, il avait vu arriver successivement les sept voyageurs qui remplissaient toute l'hôtellerie. À l'aspect de tout ce monde, de tous ces équipages, de tout ce train, Malicorne se frotta les mains en songeant que, faute d'un jour, il n'eût pas trouvé un lit pour se reposer au retour de ses explorations. Après que tous les étrangers se furent casés, l'hôte entra dans sa chambre et, avec sa gracieuseté habituelle, « Mon cher monsieur, lui dit-il, il vous reste le grand appartement du troisième corps de logis. Vous savez cela ?»« Sans doute, je le sais. Et c'est un véritable cadeau que je vous fais. »« Merci. De sorte que, lorsque votre ami viendra... »« Eh bien ?»« Eh bien, il sera content de moi, ou, dans le cas contraire, c'est qu'il sera bien difficile. »« Pardon ?» Voulez-vous me permettre de dire quelques mots à propos de mon ami ? Dites, pardieu, vous êtes bien le maître. Il devait venir, comme vous savez, et il le doit toujours. C'est qu'il pourrait avoir changé d'avis. Non. Vous en êtes sûr ? J'en suis sûr. C'est que, dans le cas où vous auriez quelques doutes, après, je vous dirai, moi, je ne vous réponds pas qu'il vienne. « Mais il vous a dit cependant ?»« Certainement, il m'a dit. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Verba volant, scripta manent. » Ce qui veut dire « Les mots s'envolent, les écrits restent. Et comme il ne m'a pas écrit, qu'il s'est contenté de me dire « Je vous autoriserai donc, sans cependant vous y inviter. Vous sentez, c'est fort embarrassant. » « À quoi m'autorisez-vous ? » « Dame, à louer son appartement si vous en trouvez un bon prix. »« Moi ? » ?»« Oui, vous. » »« Jamais, monsieur, jamais je ne ferai une pareille chose. S'il ne vous a pas écrit à vous ?»« Non, il m'a écrit à moi. »« Ah ? » ?»« Oui. » »« Et dans quels termes ? Voyons si sa lettre s'accorde avec ses paroles. » En voici à peu près le texte. « À monsieur le propriétaire de l'hôtel du Beaupan. » Vous devez être prévenu du rendez-vous pris dans votre hôtel par quelques personnages d'importance. Je fais partie de la société qui se réunit à Fontainebleau. Retenez donc à la fois et une petite chambre pour mon ami qui arrivera avant moi ou après moi. C'est vous cet ami, n'est-ce pas ? Fit en s'interrompant l'hôte du Beaupan. Malicorne s'inclina modestement. L'hôte reprit. Et un grand appartement pour moi. Le grand appartement me regarde, mais je désire que le prix de la chambre soit modique, cette chambre étant destinée à un pauvre diable. C'est toujours bien vous, n'est-ce pas ? Dit l'hôte. Oui, certes, dit Malicorne. Alors nous sommes d'accord. Votre ami soldera le prix de son appartement et vous solderez le prix du vôtre. Je veux être roué vif, se dit en lui-même Malicorne, si je comprends quelque chose à ce qui m'arrive. puis tout haut. « Et dites-moi, vous avez été content du nom ?»«
De quel nom ?»«
Du nom qui terminait la lettre. Il vous a présenté toute garantie ?»«
J'allais vous le demander, » dit l'hôte.
« Comment, la lettre n'était pas signée ?»«
Non, » dit l'hôte en écarquillant des yeux pleins de mystère et de curiosité.
« Alors, » répliqua Malicorne, imitant ce geste et ce mystère, « s'il ne s'est pas nommé ?»«
Eh bien !»
« Vous comprendrez qu'il doit avoir ses raisons pour cela. »«
Sans doute.
Et que je n'irai pas, moi son ami, moi son confident, trahir son incognito. »«
C'est juste, monsieur, » répondit l'hôte. « Aussi, je n'insiste pas. »«
J'apprécie cette délicatesse. Quant à moi, comme l'a dit mon ami, ma chambre est à part, convenons-en bien. »«
Monsieur, c'est tout convenu. »«
Vous comprenez, les bons comptes font les bons amis. Comptons donc. »
« Ce n'est pas pressé.
Comptons toujours. Chambre, nourriture, pour moi, place à la mangeoire et nourriture de mon cheval. Combien par jour ?»«
4 livres, monsieur. » »«
Cela fait donc 12 livres pour les 3 jours écoulés. » »«
12 livres, oui, monsieur. » »«
Voici vos 12 livres. » »«
Eh, monsieur, à quoi bon payer tout de suite ?»«
Parce que, » dit Malicorne en baissant la voix et en recourant au mystérieux, puisqu'il voyait le mystérieux réussir, parce que, si l'on avait à partir soudain, à décamper d'un moment à l'autre, ce serait tout compte fait.
« Monsieur, vous avez raison.
Donc je suis chez moi. »«
Vous êtes chez vous. »«
Eh bien, à la bonne heure. Adieu. »
L'hôte se retira.
Resté seul, Malicorne se fit le raisonnement suivant. Il n'y a que Monsieur de Guiche ou Manicamp capable d'avoir écrit à mon hôte. Monsieur de Guiche, parce qu'il veut se ménager un logement hors de cour, en cas de succès ou d'insuccès, Manicamp, parce qu'il aura été chargé de cette commission par Monsieur de Guiche. Voici donc ce que Monsieur de Guiche ou Manicamp auront imaginé. Le grand appartement, pour recevoir d'une façon convenable quelques dames épais voilées, avec réserve pour la susdite dame, d'une double sortie sur une rue à peu près déserte et aboutissant à la forêt. La chambre, pour abriter momentanément, soit Manicamp, confident de M. de Guiche et vigilant gardien de la porte, soit M. de Guiche lui-même, jouant à la fois pour plus de sûreté le rôle du maître et celui du confident. Mais cette réunion qui doit avoir lieu, qui a eu effectivement lieu dans l'hôtel ? Ce sont sans doute gens qui doivent être présentés au roi. Mais le pauvre diable à qui la chambre est destinée ?
Ruse, pour mieux cacher De Guiche ou Manicamp.
S'il en est ainsi, comme c'est chose probable, il n'y a que demi-mal, et de Manicamp à Malicorne, il n'y a que la bourse. Depuis ce raisonnement, Malicorne avait dormi sur les 2 oreilles, laissant les 7 étrangers occupés et arpentés en tous sens les 7 logements de l'hôtellerie du Beaupan. Lorsque rien ne l'inquiétait à la cour, lorsqu'il était là d'excursion et d'inquisition, là d'écrire des billets que jamais il n'avait l'occasion de remettre à leur adresse, alors il rentrait dans sa bienheureuse petite chambre et, accoudé sur le balcon, garni de capucines et d'œillets palissés, il s'occupait de ces étranges voyageurs pour qui Fontainebleau semblait n'avoir ni lumière, ni joie, ni fête. Cela dura ainsi jusqu'au 7e jour, jour que nous avons détaillé longuement avec sa nuit dans les précédents chapitres. Cette nuit-là, Malicorne prenait le frais à sa fenêtre vers 1 heure du matin, quand Manicamp parut à cheval, le nez au vent, l'air soucieux et ennuyé. « Bon, » se dit Malicorne en le reconnaissant du premier coup. « Voilà mon homme qui vient réclamer son appartement, c'est-à-dire ma chambre. » Et il appela Manicamp. Manicamp leva la tête et, à son tour, reconnut Malicorne. « Ah, pardieu !» dit celui-ci en se déridant. « Soyez le bienvenu, Malicorne. Je rôde dans Fontainebleau, cherchant 3 choses que je ne puis trouver. 2 guiches, 1 chambre et 1 écurie. Quant à Monsieur de Guiche, je ne puis vous en donner ni bonne ni mauvaise nouvelle. » car je ne l'ai point vu. Mais quant à votre chambre et à 1 écurie, c'est autre chose.
Ah ?
Oui, c'est ici qu'elles ont été retenues ?
Retenu, et par qui ?
Par vous, ce me semble.
Par moi ?
N'avez-vous donc point retenu un logement ?
Pas le moins du monde.
L'hôte, en ce moment, parut sur le seuil.
Une chambre ? Demanda Manicamp.
L'avez-vous retenu, monsieur ?
Non.
Alors, pas de chambre.
S'il en est ainsi, j'ai retenu une chambre, dit Manicamp.
Une chambre ou un logement ?
Tout ce que vous voudrez.
Par lettre ? Demanda l'hôte.
Malicorne fit de la tête un signe affirmatif à Manicamp.
Eh, sans doute par lettre, fit Manicamp.
N'avez-vous pas reçu une lettre de moi ?
En date de quel jour ?
Demanda l'hôte à qui les hésitations de Manicamp donnaient du soupçon.
Manicamp se gratta l'oreille et regarda à la fenêtre de Malicorne. Mais Malicorne avait quitté sa fenêtre et descendait l'escalier pour venir en aide à son ami.
Juste au même moment, un voyageur, enveloppé dans une longue cape à l'espagnol, apparaissait sous le porche, à portée d'entendre le colloque.
« Je vous demande à quelle date vous m'avez écrit cette lettre pour retenir un logement chez moi ?»
répéta l'hôte en insistant.
« À la date de mercredi dernier, » dit d'une voix douce et polie l'étranger mystérieux en touchant l'épaule de l'hôte.
Manicamp se recula, et Malicorne, qui apparaissait sur le seuil, se gratta l'oreille à son tour. L'hôte salua le nouveau venu en homme qui reconnaît son véritable voyageur.
« Monsieur, lui dit-il civilement, votre appartement vous attend ainsi que vos écuries. Seulement ?»
Il regarda autour de lui.
« Vos chevaux ? » demanda-t-il.
« Mes chevaux arriveront ou n'arriveront pas. La chose vous importe peu, n'est-ce pas, pourvu qu'on vous paie ce qui a été retenu ?»
L'hôte salua plus bas.
« Vous m'avez, en outre, continua le voyageur inconnu, gardé la petite chambre que je vous ai demandée. »
« Aïe !»
fit Malicorne en essayant de se dissimuler.
« Monsieur, votre ami l'occupe depuis 8 jours, » dit l'hôte en montrant Malicorne qui se faisait le plus petit qu'il lui était possible.
Le voyageur, en ramenant son manteau jusqu'à la hauteur de son nez, jeta un coup d'œil rapide sur Malicorne.
« Monsieur n'est pas mon ami, » dit-il.
L'hôte fit un bond.
« Je ne connais pas monsieur, » continua le voyageur.
« Comment ? » s'écria l'aubergiste s'adressant à Malicorne.
« Comment ? Vous n'êtes pas l'ami de monsieur ?»«
Que vous importe, pourvu que l'on vous paie ?» dit Malicorne, parodiant majestueusement l'étranger.
« Il importe si bien, » dit l'hôte, qui commençait à s'apercevoir qu'il y avait substitution de personnages, « que je vous prie, monsieur, de vider les lieux retenus d'avance et par un autre que vous. »«
Mais enfin, » dit Malicorne, « monsieur n'a pas besoin tout à la fois d'une chambre au premier et d'un appartement au second. Si monsieur prend la chambre, je prends, moi, l'appartement. Si monsieur choisit l'appartement, je garde la chambre.
« Je suis désespéré, monsieur, » dit le voyageur de sa voix douce, « mais j'ai besoin à la fois de la chambre et de l'appartement. »
« Mais enfin, pour qui ?» demanda Malicorne.
« De l'appartement pour moi. »
« Soit, mais de la chambre. »
« Regardez, » dit le voyageur, en étendant la main vers une espèce de cortège qui s'avançait.
Malicorne suivit du regard la direction indiquée et vit arriver sur une civière ce franciscain dont il avait, avec quelques détails ajoutés par lui, raconté à Montalet l'installation dans sa chambre et qu'il avait si inutilement essayé de convertir à de plus humbles vues. Le résultat de l'arrivée du voyageur inconnu et du franciscain malade fut l'expulsion de Malicorne, maintenu sans aucun égard hors de l'auberge du Beaupan par l'hôte et les paysans qui servaient de porteurs aux franciscains. Il a été donné connaissance au lecteur des suites de cette expulsion, de la conversation de Manicamp avec Montalet, que Manicamp, plus adroit que Malicorne, avait su trouver pour avoir des nouvelles de De Guiche, de la conversation subséquente de Montalet avec Malicorne, enfin, du double billet de logement fourni à Manicamp et à Malicorne par le comte de Saint-Aignan. Il nous reste à apprendre à nos lecteurs ce qu'était le voyageur au manteau, principal locataire du double appartement dont Malicorne avait occupé une portion, et le franciscain, tout aussi mystérieux, dont l'arrivée, combinée avec celle du voyageur au manteau, avait eu le malheur de déranger les combinaisons des deux amis.